Le lancier polonais par la duchesse d'Abrantès. Lorsque Murat était à Madrid, il eut besoin d'envoyer des dépêches à Junot, mais elles étaient importantes, et déjà toutes les routes qui conduisaient à Lisbonne étaient couvertes de guérillas, et surtout des troupes commandées par les hommes les plus importants de l'Espagne dans sa révolution, et qui composaient alors l'armée de Castaños. Murat parla de son embarras au baron de Stroganov, ambassadeur de Russie à la cour d'Espagne, et qui était demeuré à Madrid. On sait que la Russie était, à cette époque, l'ami plus encore que l'allié de la France. Monsieur le baron de Stroganov dit au grand-duc de Berg que rien n'était plus facile à exécuter que ce qu'il voulait faire. « L'amiral Signavine est dans le port de Lisbonne, » dit l'ambassadeur. « Donnez-moi le plus intelligent de vos lanciers. Je lui mets un uniforme russe. Je le charge de dépêches pour l'amiral. » « Vous lui donnerez les vôtres verbalement, et tout sera bien quand il serait pris 20 fois d'ici à Lisbonne, car l'armée insurgée est trop désireuse d'obtenir notre neutralité pour commencer elle-même par fournir un moyen de rupture. » Murat fut ravi de ce moyen, qui au fait était bien ingénieux. Il demanda au chef des Polonais, Krasinski, de lui procurer un jeune homme intelligent et brave. La chose était commune parmi les lanciers polonais, mais ici il fallait plus qu'une chose ordinaire. 2 jours après, le chef amena chez le grand-duc de Berg un jeune homme de son corps dont il répondait sur sa tête. Il s'appelait Lesinski et n'avait que 18 ans. Le grand-duc de Berg fut ému en voyant un si jeune homme demander, pour ainsi dire, à braver un péril certain, car s'il était connu, son sort était arrêté d'avance, c'était la mort. Murat, qui la bravait sans pâlir, ne put s'empêcher de faire observer au jeune Lesinski le péril qu'il allait courir. Le jeune Polonais sourit. « Que votre Altesse impériale me donne ses ordres, » répondit-il respectueusement, « et je lui rendrai bon compte de la mission dont elle veut bien m'honorer. Je la remercie de m'avoir choisi parmi mes camarades, car tous auraient brigué cette faveur. » Le grand-duc augura bien de la résolution sans forfanterie du jeune homme. Il lui donna ses instructions. Le baron de Stroganov fit ses dépêches pour l'amiral Signavine. Le jeune Polonais fut habillé à la russe, puis il partit et prit la route de Portugal. Cette route était, comme on l'a dit, couverte de troupes espagnoles. Les 2 premières journées se firent assez paisiblement, mais le 3e jour, vers l'après-midi, Lesinski se vit entouré par une troupe d'Espagnols qui, l'ayant désarmé et terrassé, l'entraîna devant le général commandant les troupes qui se trouvaient là. Heureusement pour le brave et aventureux jeune homme, c'était Castaños lui-même. Cependant, quel que fût le chef qui devait l'interroger, Lesinski comprit qu'il était perdu s'il était reconnu pour français. En conséquence, sa détermination fut prise à l'heure même de ne pas prononcer un mot en français et de ne parler que le russe ou l'allemand qu'il possédait également bien. Les vociférations que poussent avec rage ceux qu'il traînait devant Castaños lui révélaient son sort par avance. Et puis, l'horrible assassinat du général René, qui périt au milieu des tortures les plus affreuses en allant précisément joindre Junot, venait d'avoir lieu seulement depuis quelques semaines et suffisait pour glacer la pensée, car la mort elle seule peut ne pas effrayer un grand cœur, mais la recevoir à la suite d'un raffinement de barbarie, c'est plus que la force humaine ne peut en supporter. « Qui êtes-vous ? » demanda Castaños au jeune Polonais. Et cette question, il la lui adressa en français qu'il parlait parfaitement, ayant été, comme on le sait, élevé à Sorez. Lesinski regarda l'interrogateur, fit un signe et répondit en allemand « Je n'ai pas entendu ». Castaños comprenait et parlait l'allemand, mais il ne voulait pas figurer plus longtemps probablement dans cette affaire et il appela un officier de son état-major qui continua l'enquête. Le jeune Polonais répondit alternativement en russe et en allemand. Mais jamais il ne se laissa même aller à une seule intonation française. Cependant, il pouvait se troubler, car dans une chambre assez petite, il était entouré, pressé par une foule avide de son sang, on peut dire ce mot, et qui attendait avec une impatience féroce qu'il fût reconnu coupable, c'est-à-dire français, pour se jeter sur lui et le massacrer. Mais l'effervescence s'accrut au point de ne pouvoir plus être maîtrisée par le général lui-même, par un incident qui vint jeter sur le malheureux jeune homme un réseau dont rien ne paraissait pouvoir le tirer. Un aide-de-camp de Castaños, homme fanatiquement patriote, comme il y en a eu tant dans la guerre d'Espagne, et qui, dès le moment où Leszczynski avait été arrêté, s'était prononcé contre lui en disant qu'il était un espion français, accourut dans la salle où se faisait l'interrogatoire, tenant par le bras un paysan vêtu de la veste brune et coiffé du chapeau à la haute forme surmonté de la plume rouge. L'officier fend la foule et plaçant le paysan devant le Polonais, « Regarde bien cet homme, » lui dit-il, et prononce ensuite s'il est vrai que ce soit un Allemand, un Russe. « C'est un espion, je le jurerai sur mon salut, » poursuivit-il en frappant du pied. Pendant ce temps, le paysan regardait attentivement le jeune Polonais. Mais l'examen ne fut pas long, à peine eut-il jeté sur lui quelques regards, que son œil s'alluma et lança des étincelles de haine. « Es un Français ! Es un Français ! » s'écria-t-il en frappant ses mains l'une contre l'autre. Il raconte que quelques semaines avant, il avait été à Madrid pour conduire de la paille coupée, ayant été requis dans son village, ainsi que tous les habitants, pour porter des fourrages dans les casernes de Madrid et des environs. « Et je reconnais cet homme, » poursuivit le paysan, « pour être celui qui a reçu mon fourrage et m'en a donné reçu. Quand nous l'avons arrêté, j'ai dit à mes camarades, « Cet homme est l'officier français à qui j'ai livré mon fourrage. » C'était vrai. Castaños vit probablement la vérité. Mais il était un noble et généreux adversaire, et ce n'était pas par des massacres qu'il voulait cimenter l'édifice de la liberté espagnole, qui se serait élevé plus beau et durable si des hommes tels que lui, la Romana, Palafox et quelques autres, eussent dirigé seuls ce grand vaisseau qui allait à la dérive. Il voyait bien que ce jeune homme pouvait n'être pas russe, mais il redoutait les excès auxquels on se livrerait s'il était reconnu pour français. Puis il y avait le doute et surtout l'apparence. Il proposa de lui laisser continuer sa route, car Leszczynski persistait à soutenir qu'il était russe et ne comprenait pas une parole de français. Mais au premier mot que le général fit entendre, mille voix menaçantes s'élevèrent aussitôt, et le nom de traître fut murmuré à son oreille. Il n'y avait pas moyen de songer à la clémence. L'homme devient féroce quand il craint pour lui-même. « Mais vous voulez donc vous exposer à une rupture avec la Russie, dont nous demandons la neutralité avec instance ?»« Non, » répondirent les officiers, « mais laissez-nous éprouver cet homme. » Leszczynski entendait tout, car il savait l'espagnol. Il fut emmené, jeté dans une chambre qui ressemblait à un cachot du temps le plus affreux de l'Inquisition. Au moment où les Espagnols l'avaient arrêté, il n'avait pas mangé depuis la veille au soir, et lorsque la porte de son cachot se referma sur lui, il y avait 18 heures qu'il n'avait pris de nourriture. Il faut y ajouter la fatigue, l'angoisse, l'anxiété de sa cruelle position, et l'on comprendra que le malheureux se laissa tomber presque évanoui sur le grabat qui était à terre dans un des coins de sa prison. Le soleil n'était pas encore couché, il le voyait par la petite lucarne percée dans le haut du mur, et sa lumière, si brillante dans cette belle estramadour, réjouit encore quelque temps les regards du pauvre prisonnier. Mais bientôt il se retira, le ciel devint plus sombre, la nuit vint tout envelopper, et Leszczynski se retrouva seul vis-à-vis de sa terrible position. Il la jugeait ce qu'elle était, presque sans espoir. Sans doute il était brave, mais mourir à 18 ans, c'est bien jeune. Il lutta quelque temps contre les visions qui se succédaient comme une fantasmagorie devant lui, puis la jeunesse et la fatigue cédèrent au sommeil, et peu de temps après, il fut enseveli dans un sommeil si profond qu'il était presque l'image de la mort. Il dormait depuis 2 heures environ, lorsque la porte de son cachot s'ouvrit lentement, et quelqu'un y entra en marchant avec précaution. On mettait une main devant la lumière de la lampe pour en cacher la flamme, puis on se pencha doucement sur le lit du prisonnier. Alors la main qui interceptait la lumière se retira tout à coup, elle alla frapper l'épaule de Leszczynski, et une voix argentine, sonore et douce, une voix de femme, lui dit « Voulez-vous souper ?» Le jeune Polonais, réveillé en sursaut par l'éclat de la lumière, le contact de la main et les paroles de la jeune femme, se lève sur son séant et, les yeux à peine ouverts, dit en allemand « Que me veut-on » « Qu'on donne sur le champ à manger à cet homme, » dit Castaños en apprenant le résultat de cette première épreuve, « et puis qu'on fasse seller son cheval et qu'il poursuive sa route. Il n'est pas français. » Comment aurait-il été maître de lui à ce point? C'est impossible. » Mais Castaños n'était pas seul. On donna bien à manger à Leszczynski, mais son cheval ne fut pas sellé, et il demeura dans son cachot jusqu'au matin. Alors on le conduisit dans un lieu où il pouvait voir les cadavres mutilés de 10 Français qui avaient été horriblement massacrés par les paysans de Trucillo. Là, pendant toute la journée, on lui fit redouter la mort et une horrible mort. Sans cesse entouré de pièges, écouté par des oreilles avides de saisir un son, regardé par des yeux perçants qui voulaient recueillir un mouvement, le noble et courageux jeune homme avait donné sa parole de ne point faillir, et non seulement il voulut la tenir, mais aussi il voulut remplir sa mission, et jamais un seul geste, un seul accent ne purent le faire soupçonner. Enfin, au bout de plusieurs heures des plus cruelles épreuves, il fut reconduit dans sa prison et put réfléchir dans un terrible loisir au danger de sa position. « Messieurs, dit le général Castaños, je sens comme vous toute l'importance d'empêcher les communications entre les différents chefs de l'armée française qui sont en Espagne, mais ici, dans la position où se trouve cet officier, nous ne pouvons le traiter comme espion sur la simple assurance d'un de nos hommes. Cet homme peut se tromper, une ressemblance peut l'abuser, et alors nous serions meurtriers. Ça ne doit pas être notre rôle, messieurs. » L'officier qui avait été choisi par le paysan pour recevoir sa déclaration était un de ces hommes passionnés qui s'identifient avec la position qu'ils ont provoquée. Ainsi donc, il avait posé la question de cette manière, que cet homme devait être un espion français. Dès lors, il prenait, lui, l'attitude d'un personnage important, et même pour la vie d'un homme, il n'aurait certes pas échangé cette position. « Et puis, après tout, disait-il, quand il serait russe, eh bien, ces Russes sont hérétiques et les alliés des Français. » Lesinski, rentré dans sa prison, la revit presque avec joie. Le malheureux n'avait eu pendant près de 12 heures que des gibets devant les yeux, des cadavres hideux et sanglants, et ces objets sinistres lui étaient montrés par des hommes au regard de démons, à la physionomie infernale. Ses idées étaient comme sous la puissance d'un charme venu de l'enfer. Il croyait voir se projeter sur les murs crevassés de son cachot les ombres fantastiques des victimes qu'il venait de regarder accrochées aux arbres de la route. Ce fut entouré de ces prestiges lugubres qu'il s'endormit d'un sommeil profond, car la nature et la jeunesse avaient besoin de réparer en raison de ce qu'elles avaient souffert. Puis, encore une fois, au milieu de son sommeil, de ce repos de mort qui affaissait tous ses membres, sa porte s'ouvrit doucement. On approcha de sa couche, et une voix, toujours la même, douce, prononça à demi-voix « Levez-vous et venez, on veut vous sauver, votre cheval est prêt. » Et le courageux jeune homme, réveillé par ces paroles « On veut vous sauver, venez, » répondit toujours en allemand « Que me veut-on ? » Castaños, en apprenant cette nouvelle tentative et son résultat, dit que le jeune russe était un noble jeune homme. Il l'avait deviné, lui. Mais son opinion ne put influencer en rien cette commission qui voulait trouver le jeune homme coupable, qui ne le pouvait pas et qui était toute rugissante de fureur de son impuissance devant cet innocent qu'elle voulait trouver criminel. Il y a dans la passion de l'esprit de parti, et de l'esprit de parti tel qu'on le sent en Espagne, une fièvre à redoublement qui égare la raison. Ces hommes, ainsi aux prises avec cette volonté qu'ils ne pouvaient satisfaire, n'étaient plus des hommes, c'étaient les mêmes juges qui avaient fait scier le général René. Mettre le colonel Pavetti dans un four, et mourir Franceschi de douleur, comme devant souffrir plus douloureusement, parce qu'il aimait avec passion et même avec délire dans sa patrie. Et cependant, c'est une grande et belle nation que la nation espagnole. Oui, sans doute, mais une fois ses passions éveillées, précisément parce que cette nature d'homme est taillée sur un patron à grande proportion, tout ce qui se meut dans ce vaste cadre est gigantesque comme lui. Et l'amour de la patrie et celui de ses rois restaient deux affections premières pour l'Espagnol, et son devoir de leur vouer un culte dans un temps où tous deux étaient attaqués et envahis. Lesinski, bien persuadé de la légitimité de leur conduite, savait aussi combien il leur importait de connaître le sort qu'on réservait à l'armée espagnole que Junot avait sous ses ordres. Sa position recevait par là un nouveau danger qu'il pouvait mesurer dans toute son étendue. Il le vit et ne pâlit pas devant ce danger. Au contraire, il se raffermit encore dans la résolution de ne pas faiblir, car maintenant pour lui, il y allait de la vie ou de la mort. La nuit qu'il passa fut cruelle. Le matin, à peine le soleil était-il levé, que quatre hommes, dont faisait partie celui qui prétendait l'avoir vu à Madrid, vinrent le prendre pour le conduire devant une sorte de tribunal composé de plusieurs officiers de l'état-major de Castaños. Pendant le court trajet qu'ils avaient à faire, ils lui adressaient les plus terribles menaces, mais, fidèle à sa résolution, il paraissait ne rien entendre. Arrivé devant ses juges, il parut comprendre ce qu'il voyait plutôt par l'appareil qu'on y avait mis que par ce qu'on disait autour de lui. Il demanda, toujours en allemand, où était son interprète. On le fit venir et l'interrogatoire commença. Il eut d'abord pour objet son voyage de Madrid à Lisbonne. Il répondit en montrant les dépêches de l'ambassadeur de Russie à l'amiral Sieniavine et son passeport. Il est certain que sans la malheureuse rencontre du paysan qui déclarait l'avoir vu à Madrid, ses preuves étaient plus que suffisantes. Mais l'assertion de cet homme, qui soutenait son dire avec une fermeté extraordinaire et cependant naturelle, puisqu'il avait raison, jetait sur le jeune Polonais un jour qui le faisait envisager par ces hommes passionnés comme espion. Et dès lors, sa situation devenait alarmante. Cependant, il soutint toujours également son dire et ne se coupa dans aucune réponse. « Demandez-lui, dit enfin le président de la commission, s'il aime les Espagnols puisqu'il n'est pas français. » L'interprète transmit la question. « Oui, sans doute, répondit Leszczynski, j'aime la nation espagnole et je l'estime par son beau dévouement. Je voudrais que nos deux nations fussent amies. » « Mon colonel, dit l'interprète au président, le prisonnier dit qu'il nous hait, parce que nous faisons la guerre comme de vrais bandits. Il nous méprise, et son regret, a-t-il ajouté, est de ne pouvoir réunir la nation en un seul homme pour terminer cette odieuse guerre d'un seul coup. » Et tandis qu'il parlait, tous les yeux de ceux qui composaient le tribunal suivaient attentivement la moindre expression de la physionomie du prisonnier pour juger de l'effet que produirait sur lui l'infidélité de son interprète. Mais Leszczynski, en venant au tribunal, s'attendait à chaque épreuve et il s'était fortifié encore dans sa résolution de déjouer toutes les attaques. « S'il me tue, se disait-il, ils tueront un homme non seulement innocent, mais innocent par l'apparence, et ils auront tout l'odieux de ma mort. » Dans le fait réel, il n'était pas coupable, car il n'était pas espion. Il traversait ainsi l'Estramadour, mais il ne cherchait à rien surprendre. « Messieurs, dit le général Castaños, qui avait assisté à cette épreuve tentée malgré lui, mais dont il ne faisait pas partie, il me semble que ce jeune homme ne peut être soupçonné. Le paysan se sera trompé. Que la liberté soit rendue au prisonnier et qu'il poursuive sa route. En rendant compte de ce qui lui est arrivé, il voudra bien songer au péril continuel de notre position, qui fait excuser la rigueur que nous sommes forcés d'employer. » On rendit à Leszczynski ses armes, ses dépêches, on lui donna un laissez-passer, et le noble jeune homme sortit ainsi victorieux de l'épreuve la plus forte, bien sûrement, qu'on puisse présenter à une âme humaine. Pour en sortir triomphant, il faut être plus qu'un homme. Il arriva à Lisbonne, remplit sa mission, et voulait encore retourner à Madrid, mais Junot ne voulut pas le permettre. Ainsi s'achève le lancier polonais de la duchesse d'Abrantès.